Que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentisse en tout lieu. Que ce soit le leitmotiv de chacun d'entre nous qu'on prie, pour que le Seigneur anime notre cœur, afin que nous puissions propager sa parole, en parler autour de nous. Toujours touché par les phrases prophétiques de Jean Simon concernant le retour du Seigneur. C'est pas de cela qu'on va parler ce matin, mais je suis toujours touché. Puis il vient de se marier, toute la vie est dans lui. Et il attend avec impatience le retour du Seigneur, et c'est beau. Je pensais à Anna, parce qu'on discute souvent de ça, et elle me dit, oh, elle a tout. Tout est devant elle. Elle a un fiancé super. Elle n'attend que de se marier. Elle a réussi médecine. Donc elle a cette perspective de pouvoir continuer. Et puis, cette vie qui s'offre à elle, magnifique. Et c'est compliqué quand tout est beau et tout n'est pas parfait, évidemment, dans cette vie. Mais quand tout marche, de se dire, j'attends le Seigneur. C'est ça le plus important, d'avoir cette confiance en lui et de nous attendre au Seigneur. J'aime bien l'hébreu parce que c'est la langue de Jésus. Et il y a une phrase qui concerne la fin des temps qui dit « Beita Arishena ». Beita Arishena. Jésus dit, il ne comprend pas trop cette phrase parce que c'est en son temps et Arishena c'est d'une manière précipitée. Et quand Jésus revient, quand le Messie vient, il vient en son temps, et il vient en même temps d'une manière précipitée. Il vient en même temps comme sur un âne, et en même temps sur un cheval puissant, en toute la gloire. Il est en même temps une image de Joseph, il est en même temps une image de David. Pour nous qui sommes chrétiens, ça nous parle. Jésus est venu, humble, il est venu dans la souffrance, il est venu en son temps, et il revient dans la puissance, et d'une manière précipitée. Alors quand Jean-Simon disait, on amorce le dernier virage, on est au bout de la course, et il le dit souvent, et la Bible nous parle de prophètes et de paroles prophétiques. Et c'est important ça, parce qu'elle est enracinée dans la parole de Dieu. On amorce le dernier virage. Sommes-nous prêts? Mais là, on va revenir longtemps, longtemps, longtemps en arrière, au moment où Dieu s'adresse à Moïse pour la deuxième fois. Il lui a déjà parlé dans le jardin, dans le buisson ardent. Et cette fois-ci, il va l'aborder sur une montagne. Moïse se leva de bon matin, dit Exode chapitre 34, versets 4 à 9, et il gravit la montagne du Sinaï. Un de mes rêves, j'en ai beaucoup encore à rêver, c'était de grimper le Sinaï. Il y en a un autre, ce serait de monter le Kilimandjaro et me jeter en haut avec un parapente. Peut-être que je le ferais. Mais on verra, il faut organiser les choses. Bon, en tout cas, le Sinaï, je l'ai fait et c'était super. C'était vraiment, vraiment super. On n'est parti pas de bon matin, cette fois-ci, on est monté dans la soirée. Un bus nous a conduit là-bas. On est arrivé vraiment dans le noir quasiment au complet. Enfin, il y a quand même des étoiles, mais il y a des grandes bestioles qui marchaient à côté de nous et ça se bousculait, c'était des troupeaux de dromadaires, mais... Parfois, on se cognait presque dedans, on se dit « mince, c'est quoi ?» Et puis c'était un dromadaire qui passait à côté de nous, parce qu'il y avait des gens qui voulaient monter le Sinaï avec le dromadaire, c'était plus simple. Et c'est pas une ascension facile. C'est pas une ascension facile. Et il y a derrière, sur la fin, des grandes marches très hautes, au point où j'avais un peu la tête qui tournait, mais « mince, j'ai une hypoglycémie, qu'est-ce qui m'arrive ?» Pourtant, j'ai quand même l'habitude, c'est pas énorme, mais tout de même... Et c'est là que j'ai découvert le grand plaisir du sneakers. J'avais jamais goûté ça, mais alors c'était extraordinaire là. Enfin, ce goût de cacahuètes, de chocolat, etc. Au moment où vous allez tomber un peu dans les pommes, c'était extraordinaire. En tout cas, nous sommes arrivés au sommet, et au sommet, on devait arriver au sommet juste avant la levée du jour. Et c'était extraordinaire de voir le soleil se lever sur ce mont. Et on se dit peut-être que c'est là que Moïse, la tradition dit que c'est là que Moïse a reçu en tout cas conversé avec Dieu, a reçu les tables de la loi. Mais là, Moïse se lève de bon matin. Il gravit la montagne Sinaï comme le Seigneur lui avait ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama: Yahvé, Yahvé, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. C'est incroyable, c'est magnifique. Surtout lorsqu'on compare souvent le Dieu de l'Ancien Testament et les dieux du Nouveau Testament comme si c'était deux dieux différents, mais c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Écoutez ça encore. Yahvé, Yahvé, c'est-à-dire le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. On ne peut pas rêver de meilleurs attributs pour Dieu. On ne peut pas rêver de meilleurs attributs pour un père. Et le plus facile pour comprendre Dieu, c'est d'être père soi-même. Un père ou une mère, puisque on est comparé, Dieu est comparé aussi à une mère. On pardonne tout à ses enfants. Tout. Dès lors qu'il y a repentance, et même quand il n'y a pas repentance, il devrait y avoir repentance. Et on serait presque prêt à pardonner même sans repentance, tellement on aime. Il y avait ces quatre lettres, Yud-Hé, Vav-Hé, en hébreu. Et les Juifs sont tellement respectueux de ce nom qu'ils n'osent pas le prononcer. Donc souvent, lorsque vous écoutez des Juifs parler, ils parlent de Hachem, qui est simplement le nom. Donc on a vu parler Hachem dit ceci, Hachem dit cela, mais c'est le nom, on dit le nom. Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. On a parlé longuement de ce matin de l'amour, et à la limite, Pierre était dans la précipitation en passant les slides à la fin. Parce qu'on avait passé beaucoup de temps sur les premières diapositives. Mais il y avait encore tellement de choses à dire. Et ça m'a rappelé le témoignage de Juan Carlos Ortiz, qui était un pasteur sud-américain. Il était d'exhortation ce jour-là. Et il arrive dans l'église. Et il se met au pupitre. Et il dit: Aimez-vous les uns les autres. Et il s'est rassis. Les gens, un brouhaha un petit peu, ça aurait été bizarre que je fasse ça aujourd'hui par exemple. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas préparé son truc ou qu'est-ce qui se passe? Et puis le dimanche suivant, c'est encore lui qui prêche. Aimez-vous les uns les autres. Et il se rassoit. Et il va faire ça, je ne sais plus combien de fois. Ça a bouleversé l'église. Et l'église a totalement changé. Que ton souffle m'anime. Le souffle a animé Juan Carlos Ortiz ce jour-là. Il s'est laissé guider par l'esprit. Et il a simplement dit cette parole qui a bouleversé, qui a changé complètement cette église. En entendant ces paroles, cette déclaration de Dieu lui-même, Moïse se prosterna jusqu'à terre et il dit: S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. Vous savez combien de temps il fallait pour partir d'Égypte et arriver en terre promise? 10 jours. 10 jours. Et ils ont mis 40 ans. Ils ont mis 40 ans, pas à cause du veau d'or, ils ont mis 40 ans parce qu'ils ont peur de rentrer. Il n'y a que Josué et Caleb qui étaient confiants. Tous les autres avaient peur. Et la peur peut bloquer complètement les choses. Il y a une phrase de Mark Twain qui était dans le même sens que celle que Patrick a citée tout à l'heure. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure. Et la traduction exacte de l'hébreu, c'est au cou raide. Au cou raide. C'est un reproche qui est même cité dans le Nouveau Testament. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Qu'est-ce que le cou raide? Eh bien, c'est une allusion aussi aux joues. Vous savez, cette pièce de bois lourde que vous mettez sur les bœufs ou sur les chevaux. Et puis vous êtes obligé de marcher au pas du maître d'école, le bœuf ancien qui est là depuis longtemps, qui connaît bien son boulot, et puis le jeune bœuf qui est là à côté, qui lui doit se mettre au pas du maître d'école. Eh bien, celui qui a le cou raide, il est mal. Il résiste. Il se fait mal. Il se blesse. Parce qu'il ne s'assouplit pas sous ce joug. Et ça vous rappelle la phrase de Jésus? Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos, car mon joug est doux. Non seulement c'est un joug, ça reste, c'est un joug, mais il nous demande à chacun d'être souple. Et le peuple d'Israël était un peuple à la tête dure. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi ce peuple-là, entre tous les peuples, ce petit peuple, mais il l'a choisi. Et il s'est engagé. Et il savait que bien plus tard viendrait en son temps, Béhita, le Messie d'Israël, Jésus. Et le deuxième texte, qui est hyper connu, que vous connaissez tous par cœur, d'ailleurs ceux qui connaissent vont le dire en même temps que moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non seulement Dieu est venu parler à Moïse, mais il a mis le comble à son amour en nous envoyant Jésus en son temps. Et on ferait bien de voir un peu ce temps. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien examiner. Pourquoi est-ce que Jésus venait à ce moment-là? Dans quel contexte il était à ce moment-là? Comment était le peuple à ce moment-là pour que le Messie se manifeste? Et comme les choses sont redondantes dans la parole de Dieu, il y a des répétitions comme un cercle. Eh bien, si on regarde les cercles et si on regarde l'histoire, on pourrait avoir des indications des choses qui vont arriver. Et comme disait Jean-Simon, nous sommes sur le virage. On arrive sur la fin. En tout cas, même si ce n'était pas vrai, le Seigneur nous invite à vivre comme cela. Jésus probablement serait plus vite revenu. Serait beaucoup plus vite revenu. Mais le peuple chrétien, c'est aussi fourvoyé comme le peuple juif. On n'est pas beaucoup mieux. On les critique. Regardez comment ils ont fait, comment ils ont traité Dieu. Ils avaient la manne qui tombe du ciel et puis ils s'enlaçaient en disant que c'était un peu. On se lasse d'une même nourriture. Les perdrix arrivent et puis ils se lassent. C'était un peuple rebelle. Mais quand nous voyons nos 2000 ans de christianisme, on ne peut pas être beaucoup, beaucoup mieux. Et est-ce que le Seigneur ne tarde pas à venir justement parce qu'il veut que nous soyons prêts? Parce qu'il veut que nous puissions être en capacité d'acter la venue du Seigneur, comme le dit Pierre. Et peut-être que il y a des textes qui disent que le Seigneur, il y avait des indications que le Seigneur, quand il est parti, il disait, certains d'entre vous verront le royaume avant qu'il ne meure. Il s'agit du royaume de Dieu, mais on disait de Jean aussi qu'il n'allait peut-être pas mourir avant que le Seigneur arrive. Le Seigneur, ça fait 20 siècles. C'est pas si long, 20 siècles, finalement, l'histoire du monde. Mais peut-être que si notre attitude avait été différente, le Seigneur serait revenu plus tôt. Peut-être si le peuple avait crié d'une manière plus forte, Maranatha, que tu viennes, peut-être serait-il venu plus tôt. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il n'ait la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et pour faire le lien entre ce qui a été dit ce matin, et c'est une phrase qui a frappé apparemment tout le monde, que l'amour est la circulation du sang. Eh bien, nous mettons, nous les uns les autres, des obstacles dans notre vie chrétienne. Nous empêchons ce sang de circuler. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est un défi pour chacun d'entre nous, individuellement, collectivement. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et nous bloquons les choses. Et nous bloquons les choses. Nous sommes quelque part, parfois, des fumeurs. Je parle de fumeurs de tabac. Ça bouche les artères. Tous les jours, vous allez au CHR, vous voyez des gens en chaise roulante. Je dis ça à mes patients, ça les terrorise, mais bon, ils continuent quand même. Et vous avez des gens en chaise roulante, là en cardiologie, ils n'ont plus de jambes, une jambe coupée ou les deux jambes coupées, et ils sont en train de fumer leur cigarette. On leur demande pourquoi vous avez des jambes coupées? Parce que j'ai fumé. 73 000 morts en France tous les ans à cause de ça. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce que nous fumons? Nous, dans nos vies? Qu'est-ce qui fait que nous soyons en grande difficulté de nous aimer les uns les autres? Pourtant, c'est la recette de l'évangélisation. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour attire, c'est clair. Dans le petit groupe de prière qu'on avait formé à la fac, il y avait des gens qui. On allait au café de Rachel. Donc, on allait boire un café après le repas. Et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de chrétiens parmi nous, d'origines différentes. Et puis, on s'est dit, tiens, ben, si on priait ensemble. Et puis, on a commencé à prier ensemble. Mais dans les gens qui venaient au café de Rachel, il y avait des gens qui n'étaient pas chrétiens. Et bien, ces gens-là, et notamment une personne en particulier, est devenue chrétienne. Il dit, j'ai envie de faire partie de vous. J'ai envie de faire partie de cette ambiance-là. J'ai envie d'avoir cette force que vous avez à travers les prières, cette union que vous représentez tous. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Dieu a mis le comble à son amour en nous envoyant Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et retenons cette phrase. Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Amen.